humanitaire. Humanitaire, pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation Sonia Nzian.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Humanitaire se propose aujourd'hui de vous emmener découvrir les activités de l'ONG Soleil Levant Éducation. Il s'agit d'une structure créée en 2001 pour aider à la scolarisation et à la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Christophe Nyangbo, qui en est le président, sera dans quelques instants pour en dire davantage avec Abel César Cassin, notre correspondant dans le Lodibois. Et puis, pour l'actualité humanitaire, nous irons dans le Humboldt, où de nouvelles infrastructures sanitaires ouvriront très bientôt leurs portes à Katiola, Niakara et Tafiri.
Action humanitaire.
Bonjour et bienvenue à Abel César Cassin, qui aujourd'hui pilote cette rubrique. Notre correspondant dans le Lodibois reçoit pour nous Christophe Nyangbo, le président de l'ONG Soleil Levant Éducation. Entretien.
Bonjour Abel César Cassin. Reçois pour vous Christophe Nyangbo, président de l'ONG Soleil Levant Éducation. Christophe Nyangbo s'est révélé au monde au milieu des années 2000 dans le département de Bandoku par la scolarisation d'enfants en créant des écoles payotes dans les zones où il n'y avait pas d'école. Par la suite, l'ONG Soleil Levant a bénéficié de l'appui d'organismes internationaux.
Christophe Nyangbo, président du conseil d'administration de l'ONG Soleil Levant Éducation. Il faut dire que moi-même de formation, je suis instituteur. En 2001, pour nécessité de travail, j'ai été envoyé à Flakiadougou par l'inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Bandoku 1. Et quand j'y suis arrivé, Flakiadougou, le recensement de 98 disait qu'il faisait 12 000 habitants pour une seule classe de CP1. Et non loin de là, à 6 km, se trouvait Tefrodouo, qui lui faisait 9 000 habitants pour une école de 3 classes, c'est-à-dire s'ils ont fait CP1 cette année, l'année qui suit, on ne fait pas CP1, il faut attendre donc chaque 2 ans pour pouvoir ouvrir la classe de CP1 pour une population de 9 000 habitants. À côté de ces deux gros villages, il faut dire qu'il y a 35 localités que nous avons dénombrées dans lesquelles il n'y avait pas d'école du tout. Or, certaines localités de cette zone comptaient deux fois 2 000 habitants, 3 000 habitants, 4 000 habitants. Donc, nous avons fait un constat qu'il n'y avait pas d'école dans la zone. Nous avons fait un constat, donc on se dit, mais voici des enfants, des Ivoiriens qui sont en perdition. Là où les enfants ne vont pas à l'école, ça devient dangereux pour l'avenir de la zone et même du pays. Sur place, nous avons eu l'idée de sensibiliser les communautés et d'ouvrir des écoles avec ces communautés. Et nous les avons appelées les écoles bénévoles.
Pourquoi écoles bénévoles?
Bon, nous avons dit écoles bénévoles parce que nous, notre action que nous avons commencée, c'était du bénévolat. Le bénévolat dans le sens d'amener les enfants à savoir lire, écrire, compter, calculer. Et puis parler le français, ça leur permettrait de quitter la zone de l'analphabétisme.
Comment étaient ces écoles-là? Comment ça fonctionnait?
C'était en décembre 2001. On parcourait les communautés, les localités pour sensibiliser et demander aux parents de construire des payottes. S'il n'y avait pas de payottes, puisque les églises le plus souvent ouvrent les dimanches, si les gens permettaient, on prenait des magasins de stockage de produits agricoles. Ou bien, tout simplement, on identifiait des gros arbres qui avaient vraiment de l'ombrage toute la journée. Et puis bon, nous, on tenait les coups sous ces arbres.
Et qui tenait ces coups?
Ce sont des jeunes bénévoles, c'est-à-dire des jeunes déscolarisés de niveau minimum 5e ou bien 4e, 3e que nous prenions. Et en tant qu'instituteur, nous leur donnions pendant une semaine quelques rudiments de comment conduire une classe. Et puis bon, on leur remettait des craies et comment sensibiliser les parents se chargeaient d'acheter les cahiers des enfants, d'acheter les fournitures des enfants, et puis de prendre en charge l'enseignant qu'on appelait enseignant bénévole.
Aujourd'hui, que sont devenues ces écoles payotes, ces écoles bénévoles?
Il faut dire que les choses ont évolué parce que de 2001 jusqu'en 2005, pour légitimer notre action, pour la faire reconnaître par l'État, nous avons créé l'ONG Soleil Levant. Au départ, c'était Soleil Levant, mais à partir de 2010, nous avons mis éducation parce qu'une ONG serait pleine pour dire qu'elle portait déjà le même nom. Donc, nous avons pris Soleil Levant éducation. Alors, pour revenir à votre question, c'est que à partir de 2006, comme nous avons créé une ONG, nous avons pu entrer en contact avec des partenaires tels que UNICEF pour pouvoir aider à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Donc, on a commencé à avoir un peu de fonds et transformer ces payotes. Et lorsque nous avons fait la première expérience avec UNICEF, c'est vêtu d'un aussi à emboîter le pas. UNICEF nous a aidés. Donc, à partir de 2006-2007, nous avons commencé à transformer ces payotes en classes qui permettaient de protéger les enfants. Et là, nous avons fait l'approche communautaire dans la construction des bâtiments. Ça veut dire que nous apportons du matériel que les parents n'ont pas dans la communauté, à savoir les tôles, les pointes, et puis les fers et le ciment. Par contre, le sable, le gravier, l'eau, et les travaux, ce sont les communautés qui les fournissent. Et aussi, le bois, c'est les communautés qui les fournissent. Donc, ça réduit considérablement le coût de la construction du bâtiment. Et cette stratégie, je pense, aujourd'hui, est utilisée par beaucoup d'organisations.
À l'époque, combien d'enfants aviez-vous pu scolariser?
C'est en 2001 que nous avons commencé. C'est nous avons commencé à 6 villages qui ont accepté. Nous avions autour de 160 enfants dans la première année. Et la deuxième année, nous sommes passés à 200 parce que les écoles ont évolué et ainsi de suite. Mais déjà, ce que nous, on doit savoir, c'est que jusqu'en 2013, on était à 167 écoles communautaires ouvertes dans la région du Zanzan. Et avant, la région du Zanzan regroupait Bondoukou et puis Bouna. Donc, nous avions ouvert 167 écoles communautaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que les écoles communautaires fonctionnent comme l'école primaire publique. Au départ, c'était juste qu'ils doivent apprendre à lire et écrire. Mais nous, on s'est rendu compte que ces enfants-là étaient vraiment intelligents et des enfants voulaient apprendre. Ils étaient très motivés, ils aimaient la chose. Donc, du coup, nous avons trouvé donc des passerelles qui ont permis à ces enfants, lorsqu'ils arrivent au CM2, de passer l'entrée en sixième. Nous nous entendons avec les inspecteurs et puis les directeurs d'école pour qu'ils soient inscrits sur la liste. Nous pouvons dire qu'au bas mot, nous avons pu aider à scolariser plus de 20 000 enfants.
Que sont devenues aujourd'hui ces écoles?
Oui, ces écoles, comme je le disais, ces écoles ont été transformées en écoles primaires publiques. La grande majorité, je peux dire peut-être que s'il y en a qui restent, ça doit être au total peut-être autour d'une trentaine d'écoles communautaires qui sont encore sur le territoire de Bondoukou et de Bouna. Parce que ces écoles ont été ciblées par l'État de Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agit de faire la construction des écoles. Par exemple, le projet PPU, les projets CDD, les projets des conseils régionaux, tout cela ont ciblé vraiment nos écoles communautaires. Et puis aussi nos partenaires, que nous avons toujours cités, nous ont aussi appuyé à améliorer les conditions d'apprentissage dans ces classes passerelles.
Vous voilà aujourd'hui dans le Lot du Bois.
Oui, effectivement, nous sommes dans le Lot du Bois. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Lot du Bois. Il faut dire que nous étions arrivés déjà dans le Lot du Bois en 2018 avec un projet d'établissement de jugement supplétif. Et cette fois-ci, nous venons pour réaliser un projet de mobilisation communautaire autour des collèges de proximité CDD, contrat de désendettement et de développement que l'État de Côte d'Ivoire réalise en partenariat avec la République française. Et nous avons été retenus par l'UCPEF, l'unité de coordination de projet éducation-formation, pour pouvoir faire la mobilisation, la sensibilisation des communautés autour des 11 collèges CDD qui sont construits dans le Lot du Bois. Il faut dire que nous sommes aussi dans d'autres régions, mais nous sommes aujourd'hui dans le Lodge du Bois. Nous sommes dans les drainages de Gagnoua, Issia, Soubré, Sassandra, Daoukro, Bondoukou, Abengourou, Bongouanou. Quand nous venons, nous rencontrons la draine. Et puis après avoir rencontré les responsables de la DRENA, ils nous aident à rencontrer les autorités préfectorales. Bien sûr, avec les sous-préfets, nous tenons des réunions pour présenter le projet. Et ce sont les sous-préfets maintenant qui nous accompagnent pour nous introduire dans les communautés, pour dire que l'État est informé de notre action. Et donc nous sommes accompagnés et nous travaillons avec en synergie avec les cadres. Et ce projet est vraiment un projet qui vient pour aider la communauté à s'approprier l'école. Donc, là où l'État s'arrête, la communauté doit prendre la relève parce que, pour nous, lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est déjà une perte pour la nation. Pas pour l'enfant, lui seul et ses parents, mais pour la nation. Et faire en sorte que les enfants, eux tous, puissent partir à l'école, il faut expliquer l'école encore aux parents. C'est vrai qu'ils ont compris, mais il y a un aspect que les gens ignorent. C'est le suivi de l'enfant. Il faut que les enfants achèvent leur parcours scolaire, au moins l'éducation de base jusqu'en classe de 3e au BPC. Nous, notre rôle, c'est d'amener aussi les cadres à s'intéresser à leur localité, à leur village et apporter aussi l'appui nécessaire. C'est des petits moyens. Et nous avons nos techniques. Par exemple, je vous explique simple. Quand il y a un collège dans un village, dans le bassin de recrutement, les enfants quittent les autres villages pour venir. Mais à midi, ils ont des problèmes pour manger. Et donc, comment faire pour qu'il y ait une cantine dans notre collège? Et là, nous pouvons solliciter des cadres qui peuvent prendre l'engagement pour dire, bon, moi j'apporte un sac de riz dans l'année, et puis des spaghettis. Mais si on a pu toucher 100 cadres qui apportent un sac de riz chacun, ça nous fait 100 sacs de riz. Donc les enfants peuvent manger, même s'ils ne peuvent pas manger tous les jours, mais quand même, ils peuvent manger. Donc, ce sont de petites actions qu'on fait pour susciter l'intérêt de l'école auprès de nos cadres, auprès de la communauté, auprès de tout le monde. Et nous insistons aussi sur l'implication des femmes dans la réalisation des droits à l'éducation des enfants. Surtout la scolarisation des filles, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, que nous mettons en avant. Faire en sorte que les enfants filles puissent aller à l'école. Mais le plus souvent, quand on met l'enfant fille à l'école, il y a quelque chose qu'on oublie. À la maison, la fille est toujours occupée. C'est elle qui va faire les ménages, c'est elle qui va aller chercher l'eau. Non, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à étudier. Le petit garçon, quand il vient de l'école, comme il n'a pas fait ce genre de tâches ménagères, il a encore de l'énergie pour pouvoir étudier. Et c'est ce qui fait qu'on met assez de filles au départ à l'école, mais lorsqu'on arrive en classe de CM2 et au collège, on voit que le nombre de garçons est au-dessus. C'est un peu ça. Non, nous expliquons aux parents que, attention, si tu veux que ta fille réussisse, faut pas qu'elle porte sur les charges. Voilà, la vie de maintenant, il faut que les garçons apprennent à faire le ménage, puisque quand ils deviennent des grands et qu'ils sont à l'université, ou bien ils vont à l'extérieur du pays, ils sont eux-mêmes censés préparer leur nourriture. Donc il faut déjà permettre aux garçons de mettre la main à la pâte pour pouvoir permettre aux filles d'avoir un peu de temps pour pouvoir étudier. Voici un peu aussi ce que nous expliquons, parce que ce sont des petits aspects que les gens oublient.
Cet entretien touche à sa fin, M. Christophe Nyabo.
Merci, c'est d'appeler tous ceux qui auront accès à ce message à vraiment prendre à bras le corps la scolarisation des enfants et demander à nos autorités de faire en sorte que l'éducation soit mise en avant en tout ce que nous faisons, parce qu'on ne peut jamais avoir un pays développé si l'éducation qu'on donne aux enfants n'est pas celle qu'il fallait. Et nous, en Afrique, nous pouvons le faire à condition que l'école soit notre affaire, notre priorité.
À l'instant, Christophe Nyongbo, le président du conseil d'administration de l'ONG Soleil Levant Éducation, reçu par Abel César Cassin, à qui nous disons merci pour la réalisation de cet entretien. Ensemble, ils ont mis en lumière les actions de cette structure, créée en 2001, pour l'accès des enfants à une éducation de base de qualité.
Actu humanitaire.
De nouvelles infrastructures sanitaires ouvrent très bientôt leurs portes à Katiola, Niakara et Tafiré. L'information a été portée récemment aux populations de Niakara. Témoin pour Radio de la Paix, Joseph Assalé.
Le déficit d'infrastructures sanitaires que connaît la région du Hambol sera comblé dans les semaines à venir avec l'ouverture d'un nouveau CHR, centre hospitalier régional à Katiola, de deux hôpitaux généraux à Tafiré et à Niakara. Des précisions avec le ministre Ibrahim Khalil Kouna, par ailleurs président du conseil régional du Hambol.
Le chantier du centre hospitalier régional de Katiola, c'est un investissement de 39 milliards. Nous étions à l'hôpital général de Niakara. Il y a eu souvenance qu'il y a ne serait-ce que 5 ans, quand une de nos mères donnait la vie à un enfant prématuré, mais il fallait courir pour aller à Boaké, ou souvent même à Abidjan, parce que les infrastructures hospitalières ne permettaient pas de prendre en charge de tels cas. À l'hôpital général de Niakara, près d'une dizaine de couveuses, un bloc opératoire pour les femmes quand il y a des difficultés.
La joie des populations est grande, comme l'atteste cet homme.
Ce que nous avons sans sur place, ça va réduire les coûts en matière de transport et puis permettre l'intervention rapide des médecins.
D'autres investissements dans toute la région du Hambol sont en cours d'achèvement. Joseph Assalé, Niakara, Radio de la Paix.
Voilà, c'est ce que referme les portes de cet humanitaire, aujourd'hui consacré dans sa première rubrique Action à l'ONG Soleil Levant Éducation, une structure créée en 2001 pour l'accès des enfants à une éducation de base de qualité. Notre correspondant dans le Kwekè, Joseph Assalé, nous a appris dans Actu Humanitaire l'ouverture prochaine de nouvelles infrastructures sanitaires à Katiola, Niakara et Tafiré. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres défis humanitaires à relever.
Humanitaire. Humanitaire pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation, Sonia Nziang.